France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, dire que Socrate, le philosophe, a été condamné à mort par un tribunal populaire athénien. Et dire que cette peine a été exécutée, Socrate est mort dans sa prison, en buvant un poison tiré d'une plante mortelle, la grande ciguë. Et dire que Socrate aurait pu éviter non pas sa condamnation, mais sa mort. Il aurait suffi, une fois qu'il a été reconnu coupable, qu'il demande à être exilé d'Athènes et non pas supprimé. Ou tout simplement en s'évadant de sa prison, comme le lui proposaient ses amis. Ça ne paraissait pas si difficile, mais il a refusé.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Socrate, l'homme des Lumières, de la raison, de la pensée libre, non conformiste et exigeante, tué en pleine démocratie, et en plus par la démocratie, par un vote de centaines de citoyens, alors qu'on aurait pu croire que liberté de pensée et liberté politique allaient ensemble, que provocation, audace intellectuelle et gouvernement par le peuple, absence de tyrannie, allaient de pair, étaient solidaires, que la liberté de pensée et la liberté politique réalisaient toutes deux la même idée de l'humanité, de la société. Eh bien non, pas vraiment. Il peut arriver, comme dans le cas de Socrate et d'autres, que la liberté se déchire, s'oppose à elle-même. Ce n'est pas très rassurant, mais en fait, on voit ça tous les jours. Les Athéniens en ont fait l'expérience. Nous sommes en l'année 399 avant Jésus-Christ, au tout début du IVe siècle. Les Athéniens, évidemment, ne savaient pas que ce que nous appelons le Ve siècle venait de finir. Une accusation a été déposée contre Socrate. Nous en avons le texte exact, ce qui est extraordinaire. Très longtemps après le procès et la mort de Socrate, un écrivain provençal du IIe siècle de notre ère, Favorin d'Arles, dit qu'il a pu à Athènes tenir entre ses mains le texte original de cette accusation. Elle était archivée dans un bâtiment de l'agora d'Athènes, le Métroon, bâtiment dédié à la mer, la déesse féconde des moissons, Déméter. On y entreposait les archives publiques. L'accusation est rude.
Voici la plainte déposée sous serment par Mélétos, fils de Mélétos, dudème de Pitée, contre Socrate, fils de Sophronisque, dudème d'Allopéqué.
Socrate enfreint la loi parce qu'il ne reconnaît pas les dieux que reconnaît la cité et qu'il introduit d'autres divinités nouvelles. Et il enfreint la loi aussi parce qu'il corrompt la jeunesse. Peine requise, la mort.
Accusation très grave. Socrate est accusé d'impiété doublement. Il ne respecte pas les dieux de la cité et il a importé de nouveaux dieux. En plus, il corrompt ses jeunes auditeurs.
Paulin Ismar, historien.
Cet acte d'accusation, on le connaît. Et il est très mystérieux parce qu'il met en avant des motifs essentiellement religieux. Hein. Mais on est dans le cadre d'un procès pour impiété, une graffée à Zébéias. Et on a évoqué la corruption de la jeunesse, mais il y a effectivement ces deux éléments. Ne pas reconnaître les dieux de la cité et introduire de nouvelles divinités. C'est très mystérieux pour nous parce que, tout simplement, on ne comprend pas très bien en quoi, pour les Athéniens, ces deux éléments posent problème. C'est-à-dire qu'introduire de nouvelles divinités dans la cité, les Athéniens ne cessent de le faire. La cité ne surveille pas le discours qu'on tient sur les dieux. On sait que l'athéisme, par exemple, existe pleinement. On ne voit pas même à Athènes, dans la deuxième moitié du Ve siècle, d'autres individus qui sont condamnés parce qu'ils auraient tenu des propos spécifiques sur les dieux, parce qu'ils les reconnaîtraient ou ne les reconnaîtraient pas.
Blasphémé, comme on dirait.
Non, il n'y a aucun délit de blasphème. Donc on a du mal à comprendre ces catégories, l'acte d'accusation.
L'accusateur, un citoyen, Mélétos, fils de Mélétos, est allé présenter sa plainte au premier magistrat d'Athènes, l'Archon III, magistrat choisi par le peuple pour une année. Quand une accusation était déposée, n'importe quel citoyen pouvait accuser un autre, il n'y avait pas de ministère public. L'Archon III l'examinait. Si, après examen, il jugeait que l'affaire devait être portée en justice, il faisait procéder à une première confrontation entre l'accusateur et l'accusé, qui, par serment, juraient que leur déclaration était vraie. Le procès pouvait avoir lieu. Il était jugé par un jury populaire, 500 citoyens athéniens de plus de 30 ans, ou 501, pour que le nombre soit impair. Ces 500 ou 501 étaient choisis sur un total de 6000 citoyens tirés au sort en début d'année pour faire partie des jurys des différents tribunaux. Le procès avait lieu en plein air, sur l'Agora, la grande place publique d'Athènes. Les archéologues ont mis au jour de longs gradins de pierre en contrebas du temple d'Héphaïstos. Chacun pouvait recevoir 100 personnes. C'est probablement là que siégeait le tribunal. Le lieu était ouvert, la foule pouvait s'amasser autour du jury et elle ne manquait pas d'intervenir bruyamment. Le procès était court, une journée, avec en temps égal déclaration de l'accusateur, défense de l'accusé. Le temps était mesuré par une clepsydre. Ce récipient contenait de l'eau dont l'écoulement était mesuré. Puis, si l'accusé était déclaré coupable, venait un troisième moment avec un vote de l'ensemble du jury sur la peine à appliquer. Cette procédure a été respectée, mais on n'a aucune idée de la manière dont s'est déroulé le procès. Aucune idée de ce qu'a dit l'accusateur, ce Mélétos, fils de Mélétos, ni de ce qu'a dit ou pas dit Socrate pour sa défense. On n'a pas de traces écrites. On dit qu'il n'a pas voulu qu'un autre écrive son discours à sa place. Ça se faisait beaucoup. Il n'y avait à l'époque pas d'avocat pour défendre un accusé. L'accusé parlait lui-même, mais un professionnel pouvait lui avoir écrit son discours que l'accusé récitait. Dans le cas de Socrate, une légende raconte que Lysias, un grand écrivain de discours, aurait préparé un texte pour Socrate, mais Socrate le refusa.
Lysias ayant écrit pour lui un plaidoyer, Socrate le philosophe le lut d'un bout à l'autre et lui dit
« C'est un beau discours, Lysias. Pourtant, il ne me va pas. »
Car il relevait, évidemment pour la plus grande part, du genre judiciaire plus que de la philosophie. Et comme Lysias lui répondait « Si le discours est beau, comment ne tirait-il pas ?» Socrate dit
« Parce que de beaux habits ou de belles chaussures ne m'iraient pas non plus. »
Athéniens, juges, vous n'ignorez pas combien je suis dévoué à la cité aussi. Sans doute n'avez-vous pas été étonné que j'ai cru devoir porter devant l'Hébé et devant vous-même une accusation contre Socrate. Vous savez tous pourquoi j'ai déposé cette plainte. Parce que cet homme pervertit la jeunesse. Parce qu'il est coupable de ne pas croire au Dieu reconnu par l'État. Et d'introduire des divinités étrangères. Le scandale a assez duré.
Qui était l'accusateur de Socrate, ce Mélétos, fils de Mélétos? On ne sait pas grand-chose de lui. Son père, Mélétos, était un auteur de tragédie contemporain de Sophocle. Il avait gagné le premier prix lors d'un concours au théâtre de Dionysos. Le fils, l'accusateur de Socrate, a lui aussi écrit des tragédies et des poèmes érotiques, des chansons à boire. Les poètes comiques se sont moqués de lui, évoquant sa maigreur, ses vertèbres saillantes, son teint cadavérique. Aristophane a supposé que ce soit bien de l'accusateur de Socrate qu'il parle. En fait, dans une comédie, un quasi-cadavre, en raison de sa minceur, un proche des morts.
Un zoneur des enfers.
Ce Mélétos, décharné, était juste bon à aller dans l'Hadès. Il n'y aurait pas fait long feu, tellement il était léger. La fange qui coule dans les enfers aurait raison de lui.
Il s'y ferait emporter par un fleuve de diarrhée.
Peut-être qu'Aristophane ne parlait pas d'abord de son aspect physique, mais de la qualité de sa poésie. Ce Mélétos avait avec lui deux co-accusateurs, Anitos, Anutos, et Lycon, Lycon. Il a sans doute partagé son temps de parole avec eux lors du procès. Anitos était mieux connu que Mélétos. C'était un des leaders du Parti démocrate. Sa famille s'était récemment enrichie, son père était fier d'être entré dans la caste des cavaliers grâce à sa prospère entreprise de tannerie. Quand, quelques années avant le procès, la démocratie a été renversée et que 30 tyrans ont régné sur Athènes pendant quelques mois, Anitos a été spolié de ses biens. Il a ensuite activement participé à l'opération militaire menée par le chef démocrate Thrasybule, opération qui, partant du Pirée, a rétabli la démocratie et éliminé le pouvoir tyrannique des Trente. On a alors présenté Thrasybule et Anitos comme les Athéniens politiquement les plus puissants.
Thrasybule et Anitos, qui ont le pouvoir le plus grand parmi les hommes de la cité.
Anitos passait pour être un démocrate plutôt modéré, pas un radical. Quant à Lycon, Lucon, on ne sait quasiment rien de lui, sauf que c'était un orateur. On raconte qu'il était excessivement fier de son fils, un athlète incroyablement beau. Lucon, le père, aurait vu d'un mauvais œil l'influence que Socrate exerçait sur le jeune homme. Et surtout, il en voulait à Socrate d'avoir été l'ami de plusieurs des 30 tyrans. Ces tyrans ont été à l'origine de la mort de ce fils. Socrate aurait vu se liguer contre lui des représentants de 3 puissances à Athènes. Les poètes avec Mélétos, les artisans avec Anitos, les orateurs, c'est-à-dire les hommes politiques, avec Lucon. Et surtout, les noms d'Anitos et de Lucon parlent clairement. Socrate a été attaqué par la colère d'Athéniens qui n'étaient pas du tout de son bord politique. Socrate n'avait rien d'un partisan déclaré de la démocratie. Il avait parmi ses amis au moins 2 des plus cruels tyrans qui ont pris le pouvoir à Athènes. Critias, poète, philosophe, et surtout l'un des plus durs des 30 tyrans, et Charmide. Ces 2 chefs de la réaction antidémocratique ont été tués lors de l'opération militaire de rétablissement de la démocratie menée par Thrasybule, accompagné d'Anitos. Le procès de Socrate est-il un procès politique ?
Vincent Azoulay, historien.
Le procès de Socrate, c'est le procès d'un homme qu'on juge coupable fondamentalement d'avoir éduqué un certain nombre des tyrans, et notamment l'affreux Critias, qui faisait partie de ses disciples.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. des idées, réclamant le fameux sacrifice. Les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices. Mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Pierre Judet de Lacombe raconte le procès de Socrate, accusé d'impiété à Athènes.
Socrate a été jugé en l'an 399 avant Jésus-Christ, alors qu'Athènes sortait à peine d'une période extrêmement troublée. D'abord, il y a eu, après près de 30 années de guerre, la défaite humiliante d'Athènes dans la guerre contre Sparte, en l'an 404 avant Jésus-Christ, seulement 5 ans avant le procès. Athènes est traumatisée. Sparte, victorieuse, impose un régime antidémocratique sévère. Une commission de 30 Athéniens, que l'on appellera vite les 30 tyrans, prend le pouvoir. Cette commission est composée en partie d'amis de Socrate. Elle mène une répression violente, spoliation, assassinat, bannissement. Mais ce régime ne tient pas. Les démocrates, à partir du port d'Athènes, le Pirée, conduisent une révolte avec une armée composée de citoyens exilés, d'étrangers et d'esclaves. L'opération aboutit à la chute du régime des 30 tyrans. Après la victoire des démocrates, Athènes, poussée à cela par les modérés, prend une décision inouïe, inattendue. Les vainqueurs renoncent à se venger, à poursuivre les partisans des 30 tyrans. Une amnistie, qui est aussi une amnésie, est imposée. Il devient interdit de faire mémoire du mal subi pendant le régime sanguinaire des 30. On ne pouvait attaquer que les 30, les survivants, et leurs aides immédiates, et encore, seulement s'ils refusaient de rendre des comptes. Un serment y engagé.
Des événements passés, nul n'a le droit d'en garder rancune envers quiconque.
L'unité de la cité était sauvée. En raison de cette loi d'amnistie, de cette interdiction de rappeler le passé, il était impossible de reprocher à Socrate ses liens d'amitié avec le régime des 30 tyrans. Socrate est accusé dans le document officiel déposé par Mélétos, non pas d'avoir comploté avec les tyrans contre la démocratie, mais d'impiété et de corrompre la jeunesse. Est-ce un faux semblant ? Est-ce le camouflage obligé à cause de la loi d'amnistie d'une condamnation politique?
Vous, citoyens qui avez été désignés par le sort, avec l'assentiment de nos dieux, sachez que vous devez vous prononcer et rendre votre sentence
à l'occasion de ce procès qui est intenté par Mélétos, avec l'appui d'Anitos et de Lycon contre Socrate.
Pourquoi Socrate a-t-il été condamné ? Dur problème. On est ballotté entre des interprétations différentes. À Athènes même, il y avait débat. Scandale devant une supposée impiété de Socrate, haine des intellectuels, énervement face à un provocateur qui affichait ses liens avec une prétendue élite qui, pour beaucoup de citoyens, était insupportable. Règlement de compte politique, tout cela à la fois. Les plaidoiries de Socrate que nous possédons, écrites après coup par ses deux grands disciples, Xénophon et Platon, ne parlent que de l'impiété et de la corruption de la jeunesse, pas de politique. En fait, l'impiété était une faute politique majeure. Dans la religion, ses croyances, ses cultes étaient un support essentiel de la société, de sa cohésion. Le problème est qu'il est difficile de voir en quoi Socrate a pu être impie, énervant sans doute, mais pas adversaire de la religion. Dans un dialogue écrit après la condamnation, dialogue qui porte le nom d'un jeune devin, ami de Socrate, Eutyphron, Platon montre de manière ironique le lien entre impiété et politique. Socrate y apparaît. Il rencontre Eutyphron et raconte qu'il vient de voir l'archonte roi, premier magistrat d'Athènes, chez qui Mélétos, le poète accusateur, a déposé le texte de son accusation. L'archonte roi a convoqué l'accusateur et l'accusé, Mélétos et Socrate, et les a entendus. Le procès aura lieu. Socrate, tel que l'imagine Platon, donne son interprétation de l'acte d'accusation, déposé par un quasi-inconnu, dit-il. Ce qui était très exagéré, ce Mélétos était déjà un personnage à Athènes. Eutyphron lui demande qui a bien pu l'accuser.
Quelqu'un t'aura donc intenté une action publique ?
Oui.
Qui est-il ?
Je ne le connais pas très bien moi-même, Eutyphron, car j'ai l'impression qu'il est plutôt jeune et inconnu. En tout cas, on l'appelle Mélétos, à ce que je crois. Il est du dème de Pythée. Si jamais tu as à l'esprit un certain Mélétos de Pythée, un homme à la chevelure longue, à la barbe clairsemée et au nez légèrement crochu.
Je n'en ai pas idée, Socrate. Mais au fait, quelle action publique t'a-t-il donc intentée ?
Quelle action ? Elle n'est pas sans grandeur, à ce qu'il semble. Car le fait qu'un jeune ait discerné une aussi importante affaire n'est pas rien. Il sait, à ce qu'il prétend, de quelle façon les jeunes sont corrompus et il connaît leurs corrupteurs. Et il y a chance que ce soit une personne savante. S'avisant de mon ignorance et de mon influence délétère sur ses camarades, il court auprès de la ville, comme auprès d'une mère, pour m'accuser. J'ai même l'impression qu'il est le seul à entreprendre correctement sa carrière politique. Il convient, en effet, de s'occuper d'abord des jeunes, pour qu'ils soient les meilleurs possibles, de même que le bon agriculteur a raison de réserver ses premiers soins aux jeunes pousses avant de s'occuper des autres. Mélétos agit sans doute de même. Il nous supprime en tout premier lieu, nous qui corrompons les jeunes en pleine croissance, à ce qu'il prétend. Ensuite, après avoir entouré les plus vieux de ses soins, il est évident qu'il deviendra, pour la ville, la source de bienfaits nombreux et considérables, ce qui serait du reste le résultat vraisemblable quand on a connu un tel départ.
Je le voudrais bien, Socrate. Seulement, je crains fort que ce ne soit le contraire qui se produise. À vrai dire, il me donne l'impression de porter atteinte à la ville en son cœur lorsqu'il cherche à te nuire.
Toujours l'ironie de Socrate. Puis, Eutyphron demande comment, selon son accusateur, Socrate s'y prend pour corrompre la jeunesse.
Mais dis-moi, au juste, que fais-tu, selon lui, pour corrompre les jeunes gens ?
Des choses, admirable ami, qui rendent un son étrange lorsqu'on les entend pour la première fois. Il affirme en effet que je suis un créateur de dieux. Et c'est parce que, d'après lui, je crée de nouveaux dieux et ne crois pas aux anciens, qu'il m'a intenté un procès.
Ces nouveaux dieux, introduits illégalement par Socrate, ce seraient, comprend tout de suite Eutyphron, les signes divins qui, selon Socrate, surgissent parfois en lui et le conseillent. Eutyphron est un devin. Il sait très bien ce que ces manifestations divines veulent dire.
Je vois, Socrate. C'est à cause de ce signal divin dont tu affirmes qu'il se manifeste à toi de temps à autre. C'est donc avec l'idée que tu es un novateur en matière religieuse qu'il t'a intenté ce procès. Et il se présente devant le tribunal avec l'intention de te calomnier, sachant très bien que de pareilles calomnies se répandent aisément dans la foule. Moi-même, lorsque je traite à l'Assemblée de questions religieuses et que je leur prédis le futur, je suis tournée en ridicule comme si j'étais fou. Et pourtant, je n'ai fait aucune prédiction qui ne fût vraie. Rien n'y fait. Ils jalousent tous ceux qui nous ressemblent.
Ce dialogue de Platon établit un lien entre les parties de l'accusation. Le traitement infâme que Socrate aurait fait subir à la jeunesse qu'il corrompt est la forme précise que prend son impiété. Il corrompt les jeunes en leur enseignant des idées fausses sur la religion. Et cela a une signification politique profonde. Quand ces jeunes grandiront, Athènes, dirigée par eux, sera à son tour corrompue. Un peu plus loin dans le dialogue, Socrate fait remarquer que tout cela n'est pas une affaire de science, de savoir, d'opinion, mais d'enseignement, de volonté de transformer la jeunesse. C'est cela qu'on lui reproche.
Les Athéniens, à mon avis, ne se préoccupent pas outre mesure d'un homme qu'ils croient habile, pourvu qu'il n'enseigne pas son savoir. Mais s'ils le soupçonnent de rendre aussi les autres pareils à lui-même, ils se mettent en colère, soit par jalousie, comme tu dis, soit pour une autre raison.
Impiété, corruption de la jeunesse par l'enseignement, malfaisance politique vont ensemble. C'est l'interprétation de Platon. Il y en aura d'autres.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Pierre Judet de Lacombe évoque la défense de Socrate selon son disciple Xénophon.
Qu'a dit Socrate lors du procès pour se défendre ? On ne sait pas. Le procès et la mort de Socrate ont fait naître toute une littérature, de très nombreux textes prenant parti pour Socrate ou contre. Nous possédons deux plaidoiries complètes, composées bien après le procès, par Xénophon et par Platon. Elles ne proposent pas la même ligne d'argumentation. Commençons par celle de Xénophon, la moins connue. Pour Xénophon, Socrate aurait payé pour son arrogance. Il n'a pas été du tout conciliant avec ses juges. Il a été fier et méprisant. Il les a même provoqués, selon son habitude. Il cherchait à choquer le jury. Selon Xénophon, la raison de cette arrogance était que Socrate était en fait trop content d'en finir avec la vie s'il était condamné. Et il n'avait rien à perdre, au contraire. Non pas que sa vie ait été mauvaise, elle a toujours été pieuse et juste, mais cette perfection qu'il avait atteinte, et dire cela avait de quoi choquer ses auditeurs, était condamnée à disparaître, avec les naufrages de la vieillesse qui étaient imminents.
Il considérait désormais la mort comme plus souhaitable pour lui que la vie. Il en résulte que la fierté de son langage paraît assez inconsidérée.
Socrate ne cherchait pas à échapper à la mort. Il voulait seulement prouver que les accusations étaient injustes. Pour cela, il n'avait pas besoin de préparer un discours. La vie qu'il avait menée tous les jours suffisait à le justifier. Xénophon le raconte.
Ce que m'a rapporté à son sujet Hermogène, fils d'Hipponikos, son disciple, met en lumière l'accord de cette fierté de langage avec sa façon de penser. Comme Hermogène le voyait parler de toute espèce de choses plutôt que de son procès, il lui dit « Ne faudrait-il donc pas, Socrate, que tu penses aussi à ce que tu vas dire pour te défendre ?» Socrate lui répondit tout d'abord
« Ne te semble-t-il donc pas que j'ai passé ma vie entière à préparer ma défense ?»
Comment cela ? Demanda Hermogène.
Parce que de toute ma vie, je n'ai commis aucun acte injuste. Voilà, je pense, la meilleure façon de préparer sa défense.
Ne vois-tu pas, reprit alors Hermogène, que les tribunaux d'Athènes ont souvent, séduits par d'habiles propos, fait périr des innocents, alors que souvent aussi, ils ont acquitté des coupables dont les discours les avaient apitoyés ou charmés.
La réponse de Socrate est plutôt stupéfiante. Elle explique pourquoi on l'a accusé d'introduire dans la ville de nouvelles divinités. C'est un dieu qui a soufflé ou imposé à Socrate de renoncer à écrire une plaidoirie.
Et par Zeus,
répondit Socrate,
par deux fois déjà, j'ai voulu songer à ma défense, mais le signe divin s'y oppose.
L'étonnant propos, s'écria Hermogène. Socrate alors de répliquer.
Il est donc étonnant à ton sens que la divinité même estime qu'il vaut mieux que je meure à présent. Ne sais-tu pas que jusqu'à ce jour, je n'aurais pu concéder à personne d'avoir vécu mieux que moi ? J'avais conscience, en effet. Quoi de plus agréable ? D'avoir toujours vécu dans la piété et dans la justice. Je m'estimais donc beaucoup moi-même et je me rendais compte que ceux qui me fréquentaient éprouvaient pour moi le même sentiment.
Socrate évitera, en étant condamné à mort, les horreurs de la décrépitude. Il espère seulement que le dieu lui procurera une mort facile. Comme les juges, par leurs cris, font savoir qu'ils refusent cette idée que Socrate dispose d'un petit dieu personnel, Socrate les provoque encore plus. Le dieu qui prend soin de lui n'est pas n'importe qui, mais Apollon en personne. Or, Apollon à Delphes l'a désigné comme le meilleur des humains. Un de ses disciples, Chéréphon, est allé interroger le dieu.
Alors, écoutez encore autre chose, pour que ceux d'entre vous qui le désirent croient encore moins à la faveur dont m'ont honoré les dieux. Un jour que Chéréphon, à Delphes, interrogeait l'oracle à mon sujet en présence de nombreux témoins, Apollon répondit que personne n'était plus désintéressé que moi, ni plus juste, ni plus sage.
Puis, le Socrate de Xénophon s'efforce de démontrer que le dieu a raison. Socrate prétend avoir été un très bon éducateur. Certes, il a détourné des jeunes gens de l'autorité de leurs parents, mais c'est parce qu'il était lui, Socrate, un expert en éducation. Le jury n'est pas convaincu, vote sa condamnation. Selon Xénophon, Socrate aurait refusé de discuter la peine qu'il allait encourir, car cela le désignerait comme coupable. Il est content de mourir, mais reste fier, car il est innocent. Ce sont ses juges, plutôt, qui se sont montrés impies, car visiblement, ils se sont laissés corrompre et ont donc trahi leur serment. Ils ont déclaré Socrate impie alors qu'il n'a commis aucune impiété. Socrate quitte le tribunal serein.
Ayant ainsi parlé, Socrate se retira. Et la sérénité de son regard, de son attitude et de sa démarche était en parfait accord avec les propos qu'il avait tenus. Voyant alors les pleurs de ceux qui l'escortaient, il s'écria
« Qu'est-ce à dire ? C'est maintenant que vous pleurez ? Ne savez-vous pas depuis longtemps que dès ma naissance, la nature m'a condamné à mort ?»
Il y avait là un certain Apollodore. C'était un ami passionné de Socrate, par ailleurs un homme simple. Il déclara « Mais moi j'ai beaucoup de peine, Socrate, à te voir mourir injustement. » Socrate alors, à ce qu'on rapporte, lui répliqua en lui caressant la tête.
« Préférerais-tu, mon bien cher Apollodore, me voir mourir justement plutôt qu'injustement. »
Et il accompagna ces mots d'un sourire.
Bref, selon Xénophon, Socrate ne se serait en fait pas vraiment défendu. Il aurait donné sa vie en exemple, une vie que les dieux avaient su apprécier. Pourtant, les attaques étaient virulentes. Quand un autre disciple, Platon, écrira sa propre défense de Socrate, l'argumentation sera musclée. Les adversaires seront coriaces. La ténébreuse affaire n'est pas close. Le mystère s'épaissit.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker. L'existence de cette émission a été assurée pendant 3 ans et demi par Adèle Van Rett, qui a pris l'incroyable décision de faire chaque semaine rôder les dieux sur Inter. C'était vraiment gonflé. Et c'est une fabuleuse aventure. Un immense merci.